bonjour à tous. C'est vraiment une joie pour moi de tous vous retrouver aujourd'hui. J'en ai déjà vu pas mal hier. C'est voilà, beaucoup de joie, beaucoup de aussi d'émotion de pouvoir passer ce temps avec vous. Je vais faire court. Je vais essayer de faire court. Imaginez-vous un petit peu la situation que j'ai vécue il y a 2 semaines de cela. Je reviens de déjeuner, j'arrive au bureau, donc dans mon nouveau travail. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai encore rechangé de travail. Et j'arrive au bureau à 14h et il y a mon responsable qui me pose une question. Samuel, vous là les chrétiens, vous croyez encore en l'enfer ? Cache, comme ça ? Je dis... Alors attends, je vais t'expliquer. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Pendant 3h30, on a discuté de l'évangile, de la Bible, de l'histoire de la Bible, du plan de rédemption. J'étais avec 2 musulmans avec moi, donc ils sont venus dans le bureau, ils se sont assis. Le téléphone sonnait. Et on dit non, décroche pas, on discute, c'est super, j'aime ces débats, ok, je décroche pas de problème. Et on a passé l'après-midi au bureau, avec un café, à discuter de l'évangile, les musulmans me posaient des questions. J'ai un collègue chrétien évangélique qui parfois participait, donnait aussi des réponses. Et il y a une question qu'ils m'ont posée: comment est-ce que vous, dans votre vie de tous les jours, vous concrétisez votre adoration envers Dieu? Qu'est-ce qu'on peut voir dans votre vie concrète de votre adoration à Dieu? Le matin, au boulot. Et donc, ça m'a interpellé cette question. De savoir comment est-ce que, dans notre vie de tous les jours, on vit notre vie d'adorateur avec Dieu. Est-ce que ça se voit? Est-ce qu'il y a des effets? Est-ce qu'on transpire la présence de Dieu dans notre vie, le Saint-Esprit dans notre cœur? Et c'est la question aussi que j'aimerais pouvoir étudier avec vous ce matin, en prenant un passage dans Colossiens 3, du verset 1 au verset 17. Il s'avère que ce passage en ce moment me parle beaucoup, et c'est également sur ce passage que je me base pour préparer, pour mettre en place aussi un projet d'inter-église sur Paris en ce moment, en particulier axé au niveau de la louange, de l'adoration. Et je vais juste lire ce passage avec vous. Colossiens 3, à partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis. Ça, c'est aussi un sujet que j'ai abordé avec les musulmans. Ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout est en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse, ou autrement dit, habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est un passage qui est riche, qui est profond, qui nous emmène vraiment vers tout ce que nous pouvons vivre tous les jours, dans notre vie personnelle, dans notre vie d'église, entre frères et sœurs en Christ. Et la question que j'aimerais nous poser ce matin est la suivante. En quoi ma vie d'adorateur, notre vie d'adorateur, peut-elle impacter ou doit-elle impacter notre vie d'église, notre communauté, nos temps de rassemblement? J'ai parlé du verbe impact, impacter, et j'aimerais prendre avec vous trois impacts que nous vivons dans notre vie. Le premier impact, lorsque Jésus a pu prendre toute la place dans notre vie. Le deuxième impact, qui est l'action du Saint-Esprit dans notre cœur, dans notre vie. Autrement dit, la sanctification, et Jérémie en a parlé tout à l'heure également. Et le troisième impact, qui est en fait le reflet, qui est l'écho de tout ce qu'on va vivre personnellement avec Dieu, l'impact de notre vie autour de nous, et en particulier dans l'Église. Du verset 1 au verset 4, Paul rappelle aux Colossiens la source de notre vie, de notre nouvelle naissance. Et cette source, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ ressuscité. C'est ça l'impact, le premier impact que nous avons vécu dans notre vie, dans notre nouvelle vie avec Dieu. C'est Jésus qui a pris notre place sur la croix, qui est ressuscité, qui nous a lavé de nos péchés et nous l'avons accepté dans notre vie pour que ce soit lui désormais qui prenne les rênes, qui prenne les commandes de notre vie. Et ensuite, nous voyons du verset 5 au verset 11 tout un processus. Paul rappelle tout ce qui fait intrinsèquement notre nature. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, toute cette idolâtrie qui fait partie intégrante de notre nature. C'est notre héritage et nous l'avons et c'est quelque chose que nous devons déposer à la croix, que nous devons remettre à Jésus et que lui puisse remplacer toutes ces choses par tous les fruits que nous verrons un peu plus tard. Il s'avère que ce passage, je l'avais choisi pour mon baptême parce qu'il m'avait particulièrement touché, interpellé. Tout ce qui était débauche, impureté, malheureusement, j'y ai aussi touché. J'y étais plongé. Mais Dieu, il est bien plus grand que cela. Jésus a vaincu la mort. Et c'est tellement magnifique de voir le résultat de l'action du Saint-Esprit dans notre vie tout au long de ce passage. Ce que j'aimerais juste vous faire remarquer, c'est le processus dans ce passage. Paul, au début, il se concentre sur notre vie personnelle avec Dieu. Faites donc mourir ce qui dans vos membres. Donc, il parle à nous personnellement. Qu'est-ce qui, dans nos membres, dans notre cœur, dans notre vie, dans notre caractère, comportement, déplaît à Dieu, ne le glorifie pas, et il nous exhorte à pouvoir remettre tout ça à Dieu. Au verset 9, on commence à s'ouvrir vers les autres. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et à partir du moment où le Saint-Esprit agit dans nos cœurs, ça, nous allons également transpirer, nous allons également émaner ce que Dieu fait, ce que Dieu accomplit dans notre vie personnelle. Et au verset 12, nous avons un rappel, si on peut dire, du fruit de l'esprit, de tout ce qui comporte le fruit de l'esprit, les conséquences positives de l'Esprit Saint qui agit dans notre cœur, qui habite dans notre cœur pleinement. Et c'est vraiment sur la fin de ce passage que j'aimerais me concentrer maintenant. Tous ces sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, ce sont des actions, ce sont des choses que nous allons pouvoir vivre si dans notre vie personnelle, nous avons aussi le désir de progresser avec Dieu, que ce soit lui qui dirige notre vie, que ce soit lui qui nous sanctifie jour après jour. Et je trouve tellement interpellant et frappant comment Paul conclut ce passage. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Et soyez reconnaissants. Et là, nous voyons que c'est un cercle vertueux. Nous avons le processus de ce travail, cette sanctification personnelle dans notre vie, qui va ensuite impacter nos proches, qui va impacter notre communauté, nos relations avec les uns et les autres. Tous ces fruits que Paul décrit au verset 12 jusqu'au verset 15, ce sont des fruits que nous allons vivre, nous tous, frères et sœurs en Christ. L'humilité, la douceur, le fait de se supporter les uns les autres. Moi, j'aime bien également donner du relief à ce verbe « supporter », parce qu'on a toujours tendance à avoir ce verbe comme un verbe un petit peu négatif. Où, voilà, celui-ci, il faut encore que je le supporte. Mais je dirais également qu'on peut se supporter, on peut se porter les uns les autres. Se supporter comme un support. Lorsque l'un est faible, lorsque l'un est dans une situation difficile, d'autres seront dans une situation plus simple et pourront aider celui qui est faible. Et vice-versa, quand la personne qui a passé à travers une épreuve se relève grâce à Dieu, il pourra aider une autre personne. Et c'est ce qui fait notre communauté, c'est ce qui fait notre vie d'église. C'est cette interaction, c'est de par le Saint-Esprit qui agit en nous, il agit également au sein de notre église, après coup. Et ce petit verset, et soyez reconnaissant, à la fin du verset 15, conduit à la fin, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et c'est là où j'aimerais qu'on puisse s'arrêter. Nous voyons ici un concentré de ce que doit être l'expression de notre louange. Souvent, on a ce raccourci louange égale chant. Mais c'est bien plus que ça, mes frères et sœurs. C'est bien plus que ça. Nos temps de rassemblement, nos temps de célébration, comme ce matin, cela doit être la continuité de notre vie d'adorateur avec Dieu. Que ce soit le moment où nous pouvons nous exprimer collectivement tout ce que nous vivons avec Dieu durant la semaine. Que ce soit des temps où nous pouvons avoir un moment pour louer le Seigneur, l'adorer en esprit et en vérité, après tout ce qu'il fait, tout ce qu'il corrige, tout ce qu'il réalise et dans nos vies personnelles. Tout ce qu'on peut voir du verset 5 au verset 12, que nous pouvons aussi les partager avec notre communauté, et c'est ce qui fait notre vie de louange et notre vie d'adoration. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse, habite en vous abondamment. Paul, ici, qu'est-ce qu'il met au centre de toute chose? Qu'est-ce qu'il met au centre de notre louange? La parole de Dieu. Que la parole de Dieu, que la Bible soit au centre de notre louange. Que ce soit elle qui nous guide jour après jour. Que nous puissions puiser nos forces, puiser la force de Dieu à travers la parole. Je vais prendre l'image d'un moulin à eau. Si le moulin à eau n'a pas une rivière, n'a pas un flux d'eau qui va donc taper dans ses aubes, le moulin il va rester sur place. Il ne va pas pouvoir transmettre de l'énergie, transmettre une énergie électrique ou une énergie mécanique à autre chose. Il va rester immobile et inutile. S'il y a un barrage au-dessus et qu'il n'y a pas d'eau qui coule, le moulin il reste immobile. Si nous cassons ce barrage, si nous laissons le Saint-Esprit agir dans nos cœurs, dans nos vies, notre moulin à eau, il va tourner, il va se mettre en route. Et il va convertir cette énergie hydraulique en énergie mécanique, en tout ce que vous voulez. Et c'est tout ce que Paul veut exhorter les Colossiens dans ce passage. Il veut également nous exhorter ce matin à ce que nous puissions en tout premier lieu travailler notre sanctification avec Dieu à travers la parole, à travers nos temps de prière personnelle, en famille, en couple, ce qui est hyper important. Je me rappelle quand j'étais jeune, mes parents avaient l'habitude de prendre chaque soir un temps devant la parole. Et nous, c'est long. Et à la fin, ils nous demandaient de prier avec eux. Donc heureusement qu'on n'était que deux, sinon ça serait super long. Mais en prenant du recul, ces temps en famille, en couple, où on peut prendre du temps devant le Seigneur, devant la parole, c'est super riche. Ça nous apporte énormément. On apprend des uns et des autres. On est encouragé par les uns et les autres. On peut également nous-mêmes encourager d'autres dans nos temps de rassemblement. Et c'était vraiment ce que je voulais vous partager avec vous ce matin. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout, faisons tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et c'est là où nous pourrons être ces adorateurs en esprit et en vérité que notre Père recherche. Amen.